Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Heureux de vous savoir à l'écoute de Radio de la Paix. Place à l'actualité économique dans le cadre de votre espace hebdomadaire Economia qui fait un zoom encore une fois sur le plan national de développement, mais cette fois-ci sur le PND 2026-2030 et qui fait l'objet de consultations des populations et cela à travers toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et c'est une initiative du ministère de l'économie, du plan et du développement et nous recevons l'un de ses directeurs généraux. Celui-là est en charge du plan et du développement. Marcelin Cissé, c'est de lui qu'il s'agit, nous parle des acquis des précédents PND 2012 à 2025 et également des différentes articulations du PND 2026-2030 en élaboration. Il est notre invité pour nous éclairer sur ce document de planification. Merci de suivre ce numéro spécial d'Economia et bienvenue à tous.
Regard sur la gestion économique nationale.
Monsieur Marcelin Cissé, bonjour.
Bonjour, monsieur Comé.
Vous êtes le directeur général du plan au ministère de l'économie et du plan et vous organisez ce que vous appelez des rencontres sur le PND, des rencontres régionales. Alors, pour expliquer simplement à nos auditeurs, c'est quoi le PND, le plan national de développement?
Alors, merci monsieur Comé de nous donner la parole pour partager avec vos auditeurs ce que nous entreprenons dans le cadre de la préparation du plan national de développement 2026-2030. Mais avant toute chose, je voulais vous remercier en tout cas de participer à cet exercice d'appropriation, de sensibilisation de l'ensemble des parties prenantes dans le processus d'élaboration du PND 2026-2030. Alors, la planification du développement pour un pays, c'est un outil de notre point de vue puissant de transformation économique et surtout d'amélioration des conditions de vie des populations. Il est bon que les auditeurs le sachent, la planification du développement vise à déterminer une vision claire et structurée sur l'avenir. La planification du développement consiste à se fixer des objectifs de développement sur le moyen et le long terme. La planification du développement consiste à analyser et à hiérarchiser les problématiques, ce que nous appelons dans notre exercice le diagnostic. Et une fois qu'on aura déterminé les problèmes, il faut proposer des solutions, ce que nous appelons les options de politique économique et sociale. Et une fois qu'on aura bâti les politiques économiques et sociales, il faut faire le cadrage macroéconomique et budgétaire qui nous permet de dire un peu les moyens qui vont aider à mettre en œuvre les actions de développement qu'on aura retenues. Et une fois qu'on aura le budget, les moyens pour le faire, nous faisons la mobilisation des ressources aussi bien internes qu'externes. Et pour la mise en œuvre, il faut un dispositif de mise en œuvre avec un suivi efficace pour évaluer la performance de l'ensemble des actions qu'on a retenues dans la planification de développement. Pour être plus simple, je voudrais vous dire qu'un plan national de développement, c'est un document élaboré de façon consensuelle qui contiennent les grandes orientations en matière de politique de développement économique et social sur une période quinquennale qui constitue le cadre de référence de l'ensemble des interventions publiques et privées et des partenaires au développement.
Alors, monsieur Marcelin Cissé, pourquoi il est nécessaire de planifier le développement d'un pays?
Alors, vous vous en doutez bien, nous sommes dans le cadre d'un pays et les besoins sont immenses. Il faut un document de référence pour bâtir, hiérarchiser les différentes problématiques. Il faut une vision claire du développement. Si vous ne planifiez pas, bien entendu, vous ne pouvez pas prioriser les différents problèmes qui se posent aux populations. L'objectif de la planification des autorités d'un pays, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations. Et c'est donc dans le cadre de la planification que nous arrivons à mettre ensemble l'ensemble des besoins des populations pour, bien entendu, améliorer leur bien-être.
Et cette planification s'appuie généralement sur la vision du dirigeant du pays, c'est cela?
Oui, bien entendu, pour le développement d'un pays, on s'appuie sur la vision, le leadership des plus hautes autorités. Donc, nous adoptons deux approches mixtes pour notre planification. Nous avons la vision des autorités, mais nous appuyons surtout sur les besoins et les aspirations des populations. Nous adoptons également une approche, le bottom-up, de la base au sommet, pour recueillir les besoins et les aspirations des populations et les mettre en cohérence avec la vision des plus hautes autorités pour avoir un document consensuel et cohérent pour améliorer les conditions et le bien-être des populations.
Le PND 2026 et 2030 2030 est en élaboration. Alors, pouvons-nous avoir une idée de ce que les précédents plans nationaux de développement ont pu apporter depuis 2012?
Merci beaucoup, M. Comé. Alors, avant de pouvoir répondre à cette question, je voudrais vous dire un peu quelle était la situation économique et sociale de la Côte d'Ivoire en 2011. Vous savez, les plus hautes autorités ont hérité d'un pays en 2011 qui était fragile et puis qui était en récession, qui résultait bien entendu de la longue crise socio-économique que le pays a connue, qui s'était même muée en 2011 en crise post-électorale. Cela avait fait en sorte qu'on avait une recul de l'activité économique de près de 1,3% sur la période 2000-2010. Et même en 2011, nous avons un taux de croissance négatif de moins 6,6% avec les secteurs de l'agriculture, les infrastructures et l'industrie qui étaient fortement affectés. Nous avons un environnement des affaires qui était très peu attractif. Nous avons un faible niveau d'investissement. Le niveau d'investissement global était en dessous de 15,9%. Nous avons les infrastructures économiques et sociales qui étaient fortement dégradées et cela affectait grandement la compétitivité de l'ensemble de l'économie. Nous avons un taux de pauvreté qui était de 48,9% en 2008 et avec la crise post-électorale, ce taux de pauvreté s'était exacerbé avec 55,4% en 2011. Voilà la situation économique en 2011 et comme vous le savez, quand son excellence le président de la République Alassane Ouattara est arrivé à la tête du pays, il a replacé la planification du développement au cœur de l'action publique. Donc la première chose pour redresser le pays, il a instruit l'administration d'élaborer des plans nationaux de développement et nous avons élaboré 3 plans nationaux de développement. Le premier plan national de développement 2012-2015 qui visait à ramener la paix, la sécurité, mais également mettre en place les fondements de ce qu'on peut appeler l'émergence du pays. Ensuite, nous avons poursuivi avec le PND 2016-2020 qui avait pour objectif de renforcer les fondements de la Côte d'Ivoire émergente, mais bâtir les fondements pour l'industrialisation du pays. Vous avez dû entendre ici, on construisait beaucoup de ponts, on bâtissait les infrastructures. Mais si vous voulez avoir une économie qui est compétitive, attractive, il vous faut bien entendu avoir des infrastructures structurantes qui permettent de bâtir ce qu'on peut appeler la Côte d'Ivoire émergente. Ensuite, nous avons le PND 2021-2025 que nous sommes en train de mettre en œuvre et dont l'échéance est 2025. Et conformément à notre processus de planification, nous avons donc entrepris d'élaborer le PND 2026-2030, mais ces différents PND nous ont permis d'enregistrer une croissance économique qu'on peut qualifier de remarquable. Sur la période 2012-2019, nous avons un taux de croissance économique moyen de 8,1%. Et sur la période 2021-2024, c'est un taux de croissance moyen de 6,5%. Mais ces taux de croissance sont la résultante d'investissements publics et privés massifs, des investissements publics qui ont été catalyseurs des investissements privés, ce qui fait qu'on est passé d'un taux d'investissement global de 14,1% à un taux d'investissement de plus de 26,2% en 2024. Alors, Comment cela se traduit de façon pratique en termes de chiffres réels? Je vous donne quelques chiffres.
Justement, avant que vous puissiez nous donner ces chiffres-là, mais concrètement, comment les populations ont ressenti ça, cette croissance-là? Vous le percevez comment?
Alors, je vais vous donner quelques chiffres qui vous disent un peu quel est le ressenti pour les populations. Je vous ai dit au départ, nous avons des infrastructures routières et de transport qui était fortement dégradé. Aujourd'hui, avec la mise en œuvre du PND, sur la période 2012-2024, le linéaire de route du bitumé est passé de 6 500 km en 2011 à aujourd'hui 8 500 km en 2024. Ça veut dire que nous avons plus de 2 000 km de route qui ont été bitumées entre 2011 et 2024. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est agricole et ses infrastructures permettent l'écoulement des productions agricoles avec des reprofilages lourds qui sont faits également. Nous avons les linéaires d'autoroute qui sont passées de 162 km en 2011 à 400 km en 2024. Nous avons l'ensemble des infrastructures structurantes dans le Grand Abidjan. Nous avons, pour ce qui concerne les capacités énergétiques, en 2011 étaient de 1391 MW. Nous sommes passés à 2907 MW en 2023. Mais de façon pratique, cela a permis de renforcer l'électrification du pays et cela touche directement les populations. régions. Nous sommes passés aujourd'hui à plus de 8000 localités électrifiées avec le taux de couverture en électricité qui est substantiel aujourd'hui. Nous avons construit plus de 46 000 salles de classe en 2011 et 2024 avec le recrutement de plus de 83 000 enseignants, plus de 608 établissements secondaires, la construction de 5 universités. Pour ce qui concerne le secteur de la santé, nous avons construit de nombreux établissements sanitaires de premier contact, plus de 800. Cela fait qu'aujourd'hui, nous avons amélioré de façon substantielle la proximité des établissements de santé. C'est des choses qui bénéficient directement aux populations. Nous avons, pour ce qui concerne l'action sociale de l'État, je voudrais pas passer dessus. Il y a une politique forte de l'État et qui contribuait à donner 60% du prix CAF aux producteurs.
Alors, monsieur le DG, pour permettre de continuer sur l'action sociale de l'État, on reproche que cette croissance et tous ces efforts ne soient pas une croissance inclusive qui permette aux populations de pouvoir vivre un peu mieux. Qu'est-ce que vous répondez, vous, en tant que DG au contact donc des données que vous remontez? Est-ce que la réalité est tout autre?
Je voulais dire à vos auditeurs que c'est quelque chose qui n'est pas fondé. Je vous ai indiqué tout à l'heure qu'on a fait des investissements publics et surtout des investissements sociaux important. On a bâti des infrastructures économiques, mais l'action sociale de l'État a été très forte sur la période. Je voudrais vous donner, pour ce qui concerne l'action sociale, quelques mesures importantes. Quand vous construisez des salles de classe, quand vous électrifiez des localités, quand vous renforcez l'accès à l'eau potable, quand vous donnez 60% du prix CAP aux producteurs, vous améliorez les revenus. Les salaires ont été débloqués en 2014. En 2023, il y a la prime exceptionnelle et puis bien entendu le SMIC a également augmenté. Et en 2018, nous avons fait un peu le point de l'ensemble des actions qui ont été mises en œuvre et le gouvernement a décidé de renforcer l'inclusivité du processus de croissance en mettant en place un programme social du gouvernement. Ce programme social du gouvernement a été renforcé avec le programme jeunesse du gouvernement. Tout ceci, c'est de permettre d'amplifier l'action sociale de l'État, d'investir massivement dans les infrastructures sociales de base, d'améliorer le bien-être des populations. Et tout ça, de notre point de vue, contribue à renforcer les gains sociaux du processus de croissance qui est en cours, ce que nous appelons le ruissellement de la croissance.
Alors justement, dans le renforcement de toutes ces actions-là, vous décidez dans le prochain PND, donc 2026-2030, de faire des consultations régionales. En quoi vont consister ces consultations, monsieur le directeur général?
Vous savez, quand vous voulez concevoir et mettre en œuvre des politiques publiques, le plus important, c'est d'associer les populations à ce processus. Ces consultations régionales visent donc, dans une approche de la planification de la base au sommet, à faire le bilan de tout ce que le gouvernement a mis en œuvre au cours des dernières années. Nous travaillons avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit l'administration déconcentrée, avec les préfets, les ministres-gouverneurs. Nous travaillons également avec le secteur privé local. Nous travaillons avec les leaders communautaires, les guildes religieux, les associations du monde rural. L'objectif pour nous, à travers ces consultations, c'est d'identifier les besoins, les aspirations et les priorités des populations. C'est donc un gouvernement qui est à l'écoute des populations pour pouvoir concevoir des politiques publiques qui sont en adéquation avec leurs priorités et leurs besoins à la base. De façon concrète, je prends une région donnée. Quand nous allons dans la région, nous faisons le point. Quels sont les besoins en termes d'eau potable? Quelles sont les localités qui ne sont pas électrifiées? S'il y a des localités qui sont électrifiées, est-ce que nous avons la qualité de l'énergie? Quelles sont les pistes rurales à reprofiler? Quels sont les centres de santé à construire? Quelles sont les infrastructures de transformation pour dynamiser l'économie régionale à faire? C'est un peu tout ça que nous essayons de faire dans les différentes localités du pays et cela nous permet de regarder dans chaque région quelles sont les potentialités à valoriser au niveau de chaque région du pays pour que nous puissions avoir un plan national de développement qui repose bien entendu sur les besoins et les aspirations des populations. Et vous souviendra que l'un des objectifs du gouvernement, vous avez parlé tout à l'heure de vision et de leadership des autorités, c'est de développer de façon harmonieuse le territoire national et ces consultations vont nous permettre de bâtir des politiques qui permettent de renforcer, au-delà de l'aménagement harmonieux du territoire, de renforcer l'équité spatiale.
Alors, mais pourquoi maintenant, on peut dire, vous êtes à 4MPND, pourquoi cette nouvelle approche-là?
Ah, peut-être que vous n'avez certainement pas suivi. Mmh. Pour tous les plans nationaux de développement que nous avons conçus, nous faisons toujours des consultations régionales. Et le processus de développement, c'est une démarche rigoureuse, c'est une démarche de planification participative que nous faisons. Et même, je voudrais vous dire que dans le cadre du suivi du PND, nous avons des dispositifs de suivi du PND au niveau local, qui, dans les PND précédents, qui étaient présidés par les préfets de région, avec les administrations déconcentrées, mais avec toutes les parties prenantes au niveau local. Pour tous les PND que nous faisons, nous avons toujours cette démarche, et au-delà même de cette démarche de consultation, nous conduisons un ensemble d'enquêtes et d'études spécifiques qui permettent de renforcer ce processus de consultation. Quand nous faisons, par exemple, les enquêtes sur les conditions de vie des ménages, nous y adjoignons des enquêtes qualitatives qui nous permettent de voir un peu quels sont les besoins, les aspirations des populations. Mais au-delà de ça, nous faisons des focus groups et nous faisons un dialogue interactif avec les populations à la base pour que nous puissions bien identifier leurs besoins, leurs aspirations pour concevoir les politiques de développement. Ça a été une constante, la démarche participative que nous adoptons dans la conception, dans la mise en œuvre et dans le suivi et évaluation des plans nationaux de développement.
Alors, vous parlez d'enquête, hein, justement, tout cela donne des statistiques. Hein, il y a des débats autour, par exemple, de l'indice de développement humain de la Côte d'Ivoire. Il y a eu quelques améliorations, mais bon, il y a un débat autour et le constat qui est fait par certains observateurs, notamment des économistes, c'est la difficile remontée de certaines informations qui permettraient éventuellement d'actualiser les données pour que la Côte d'Ivoire voit son classement amélioré. Est-ce que vous faites ce même constat fait par certains observateurs économiques?
Je ne sais pas s'il faut dire faire le même constat, mais je vous ai indiqué tout à l'heure, nous, en termes de planification de développement, si vous voulez planifier le développement, vous êtes obligé d'être à l'écoute des populations. Vous êtes obligé de regarder si les politiques que vous menez se traduisent par des impacts tangibles sur le bien-être des populations. Et pour pouvoir le faire, vous avez besoin de données statistiques fiables et désagrégées. Nous notons dans ce processus qu'il faut renforcer l'appareil statistique national. Vous voyez, nous sommes passés aujourd'hui de l'Institut national à la statistique, à l'Agence nationale de la statistique, qui relève du ministère de l'économie, du plan de développement. L'idée, c'est de permettre, à travers cette réforme, de renforcer l'appareil statistique national pour centraliser l'ensemble des données, aussi bien des données administratives, mais également les enquêtes. Nous avons fait le diagnostic, nous avons noté qu'il y a nécessité de renforcer cet appareil statistique national, de renforcer les capacités de production des données statistiques, de renforcer en ressources humaines toute la chaîne de production des statistiques nationales, avec aujourd'hui l'École nationale des statistiques à Abidjan, qui est un centre d'excellence. Nous produisons beaucoup de statistiques et malheureusement, nous n'arrivons pas à les maintenir dans le circuit administratif. Et avec cette réforme, ils vont être plus motivés avec des revenus adéquats qui leur permettront de dynamiser tout l'appareil de production des statistiques. Mais vous avez mentionné tout à l'heure l'IDH. Je voudrais indiquer que pour ce qui concerne l'IDH de la Côte d'Ivoire, l'IDH est en perpétuelle augmentation et nous sommes aujourd'hui classés dans la catégorie des pays à IDH moyen. Nous avons eu des débats sur l'IDH. Nous avons indiqué que les efforts qui ont été faits par le gouvernement au cours des dernières années se sont traduits par une amélioration substantielle de notre IDH. Nous attendons d'ici quelques semaines le prochain rapport qui sera produit par le programme des Nations Unies pour le développement et vous verrez bien que les efforts du gouvernement se sont traduits par une amélioration de l'IDH. On ne va pas faire la fine bouche, il y a des efforts à faire pour renforcer les capacités de production des données statistiques, mais également, il ne suffit pas de les produire, mais il faut également les diffuser et s'assurer que les différents partenaires au développement aient des rapports qui s'appuient sur des données qui sont factuelles, qui nous permettent de rendre justice aux efforts qui sont faits par le gouvernement.
Monsieur Marcelin Cissé, directeur général du plan et du développement, je vous remercie pour ces éclairages. Je rappelle que nous vous avons eu en interview à l'occasion donc de cette action que vous menez. Le ministère de l'économie et du plan mène donc des consultations régionales pour pouvoir remonter les informations au niveau des régions. Merci pour vos éclairages.
Merci beaucoup. Alors, avant de clôturer, je voudrais vous retirer nos remerciements au nom de Madame le ministre de l'économie du plan et du développement. Comme on l'a indiqué, les consultations régionales sont une étape importante. Parce que la planification du développement, c'est un processus qui est participatif. Je voudrais vous rappeler que c'est un processus que nous conduisons avec un dispositif institutionnel qui est présidé par les plus hautes autorités. C'est son excellent le vice-président de la République qui préside le conseil d'orientation pour la production du PNIC. Et nous avons un comité de pilotage qui est présidé par le premier ministre, un comité technique qui est présidé par madame le ministre de l'économie du plan et du développement et un secrétariat technique que nous présidons, mais qui comprend l'ensemble des directions générales. Nous avons dans ce processus les élus, les collectivités décentralisées, les partenaires au développement, le secteur privé, la société civile, qui sont dans ce dispositif parce que nous pensons à bon droit que la planification se doit d'être fortement participative. Merci beaucoup en tout cas de cette interview.
Merci à vous, Monsieur Marcelin Cissé. Je rappelle que vous êtes directeur général du plan et du développement au ministère de l'économie et du plan et du développement. Bonne journée à vous.
Merci, bonne journée. Nous gardons le contact.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.